Une production originale H2O Web Media.
Premier podcast de ce tout nouveau projet, La dépoussiéreuse de crime. Avant de vous présenter ce premier épisode, j'aimerais tout d'abord que Annie, tu puisses nous expliquer comment t'en es venue à faire de l'enquête.
Ben moi, ça a commencé par accident. Là, je le dis souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je trippe sur le crime, que j'aime ce sujet-là. Mais en fait, c'est quasiment l'inverse. Là, c'est parce que j'ai une amie qui, dans le fond, a commencé à en faire. Puis au départ, j'aimais pas ça quand elle m'en parlait, mais on avait toutes les deux un trip d'archives. On aimait ça. Ça commençait là, tu sais, les plateformes sur Internet d'archives. Puis on allait voir ça. Puis c'était tout le temps tentant, mais en même temps, je savais que ça me torturait d'aller voir ces affaires-là, d'aller ressortir les vieux articles de journaux. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, dans le fond, j'ai dit, je vais y aller à fond, ça va comme m'exorciser peut-être, ou je vais me désensibiliser, mais pas d'une façon de devenir sociopathe, là, mais on s'entend juste pour que ça arrête de... Parce qu'en même temps, je sentais que je pouvais peut-être faire quelque chose, pas résoudre des choses nécessairement, mais dans le sens de trouver de l'information, aider, refaire la chronologie, puis tout ça. Finalement, mon amie Maude, elle a fait son permis d'enquête privée d'agent d'investigation, et j'ai fait la même chose pas longtemps après. Puis on a tranquillement là, continué là-dedans. Maude a parti son bureau d'enquête, là, investigation Quaestio. Moi, je continue à faire un peu de bénévolat tout en travaillant dans le domaine de l'éducation spécialisée. Mais je fais du bénévolat pour l'instant. Puis dans le fond, je m'auto-forme, autodidacte. Là, je fais d'autres formations. J'essaie d'apprendre le plus possible sur les archives. Puis c'est comme ça que, dans le fond, je me suis approchée ou je me suis fait approcher des fois par des familles de victimes pour aider à du moins trouver des petites réponses, des documents légaux, des articles de journaux. Pour les aider dans ça, puis c'est ça, ça s'est fait par accident.
Donc, à la base, tu es technicienne en éducation spécialisée.
Oui.
Et puis, en quelle année tu as été faire ton certificat pour justement pouvoir faire de l'enquête?
Bien, le permis d'enquête, c'est ça, dans le fond, c'est des cours collégiales là, qui donnent droit à aller chercher un permis au bureau de la sécurité privée. J'ai fait ça il y a 2 ans.
Donc, puis, c'est ça. Donc ta passion s'est développée.
Assez peaufiné, là.
Oui. Puis tellement que je sais que tu fais de l'enquête un peu avec ton père ou tu partages, tu sais, cette passion-là avec ton père qui est vraiment... Il a découvert ça à travers toi.
C'est ça, je le dis souvent, là. Il y a 2 ans, quand je disais que je faisais ça, j'aimais même plus ça le dire parce qu'il fallait que je me justifie. Les gens trouvaient ça glauque. Maintenant, les gens me demandent comment on fait. Parce que là, c'est comme devenu un peu à la mode.
OK.
Avec les séries, autant américaines que nos téléséries ici. Puis mon père, au début, je voulais pas lui dire que je faisais ça parce que je suis son bébé. Il est très protecteur, puis j'avais peur que ça l'inquiète que je fasse ça. Moi, j'avais confiance en ce que je faisais. Là, je savais que je faisais attention de pas faire des choses qui soient dangereuses. Finalement, il a bien vu. Là, j'en parlais avec parce que mon père, il se tient au courant aussi. Puis finalement, oui, c'est ça. Il aime bien ça. Il embarque avec moi là-dedans. Il va lire les dossiers, les procès que je sors. Comme moi, il a un petit penchant pour ce qui est un peu plus historique. Là.
OK.
Le contemporain, il va chercher plus les choses très, très, très de l'actualité. Mais sinon, il est comme moi. Il aime ça, les vieilles affaires un peu.
OK. Puis finalement, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Qu'est-ce qui te passionne puis qui te motive à travers toutes ces enquêtes-là le plus? Là?
Bien, au départ, quand je parlais pas à des familles du tout, c'était vraiment la réponse. Là. C'est vraiment de voir jusqu'à quel point, tu sais, on se prend pour un petit détective sur Internet. Tout le monde le fait un peu, là, tu sais, avec les réseaux sociaux puis tout ça. On a tous des petits skills, là, tranquillement, pas vite. Fait qu'au départ, c'était juste trouver des réponses. Mettons, je trouve un article nébuleux ou une affaire non résolue. Ça s'est-tu résolu finalement? Tu sais, une fugue, un ci, un ça. Au début, c'était juste des curiosités personnelles. Pas morbide, par exemple, mais juste voir jusqu'à quel point je suis capable d'aller trouver l'information de ce qui s'est passé. Maintenant, ben, c'est vraiment de servir les familles là, le plus possible, ouais. Parce que dans le fond, ma valorisation est là quand ils sont contents que je les aide. Parce qu'ils sont très conscients qu'il n'y aura pas une résolution nécessairement du jour au lendemain, mais qu'il va y avoir quand même au moins pour les familles maintenant. Pour eux, c'est la valorisation est le fun pour moi parce que, dans le fond, eux, ils veulent une réponse. T'sais, c'est sûr qu'ils savent, après 30 ans, souvent, ils savent que du jour au lendemain, on ne retrouvera pas nécessairement quelque chose. Mais eux, ils ont besoin, tu sais, différentes. Il y a des gens qui vont penser qu'on fait ça, qu'on lui tourne le fer dans la plaie. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a différentes familles de victimes. Il y en a qui ont besoin, qu'on les laisse tranquilles avec ça, puis il faut respecter ça. Puis c'est pas une mauvaise façon. C'est leur façon à eux. Sont pas, c'est trop pour eux. Puis pour être capable de s'en sortir, il faut qu'ils mettent ça le plus en arrière de eux. D'autres que pour avancer, pour être capable de passer à travers ça, il faut plus... ils ont besoin de chercher des informations, ils ont besoin de travailler le cas, surtout quand c'est non résolu, évidemment. D'une manière ou d'une autre, ils vont travailler là-dessus. Si je les aide à trouver des articles, des trucs pour essayer de les aider, aussi des fois de les orienter dans l'information, parce qu'il y a beaucoup de familles qui vont penser qu'il y a beaucoup de complots, que la police n'a pas fait ça comme faux, que c'est de la faute d'un tel, d'un tel. T'sais, ça aussi, c'est bon de les informer de la bonne façon, mm-hmm. de trouver les documents qui vont leur donner des réponses, de s'enligner sur quelque chose de plus objectif.
Mm-hmm. Annie Richard, qui est la dépoussiéreuse de crimes, et moi, Roxane Larouche, qui a décidé de collaborer avec toi, je vais expliquer comment on en est venu à faire ce projet-là ensemble. J'avais l'idée, en fait, de démarrer ce type de projet, donc de pouvoir produire un podcast sur les enquêtes. C'est quelque chose que je trouvais intéressant. Je pensais pas m'investir à ce point-là et finalement, on a eu comme un genre de coup de foudre professionnel et aussi d'amitié parce que finalement, on se rejoint, on se ressemble aussi, on a des valeurs, des motivations qui se ressemblent. Et puis, c'est à travers ma recherche que j'ai fait sur le web pour trouver quelqu'un, un partenaire, collaborateur, collaboratrice qui aurait voulu justement mettre sur pied ce projet-là, que je suis tombée sur Annie. Et puis, je suis très heureuse, en fait, parce que je t'ai approchée, en fait. Hein, on a discuté à quelques reprises, puis ça a comme connecté. Je voyais à quel point tu étais passionnée, vraiment. Puis tu m'as comme transmis cette passion-là. Donc, je trouve ça super le fun et intéressant de pouvoir faire ce projet-là avec toi. Je sais que ça va être un succès. C'est très, très excitant, justement, aujourd'hui, hein, de pouvoir lancer ce premier épisode-là. Donc, c'est ça, la dépoussiéreuse de crimes. C'est Annie Richard, Roxane Larouche qui vous propose de passer à travers l'affaire Lambert qu'on vous présente aujourd'hui. Bonne saison, Annie.
Merci, toi aussi.
Annie, on en est à notre tout premier épisode, La dépoussiéreuse de crimes. On doit dire aux gens qui nous écoutent qu'à travers cette aventure-là, on poursuit notre enquête, mm-hmm. on rencontre et on parle à des nouvelles personnes et ça brasse vraiment beaucoup en ce moment.
Oui, je pense que ça dérange un peu. On a ouvert ce qu'on appelle une boîte de Pandore. Certaines personnes ne collaborent pas nécessairement. Ça alimente peut-être un petit peu l'enquête, ça oriente vers autre chose.
Annie, raconte-moi comment ça a commencé, cette histoire-là.
Dans le fond, j'ai eu un courriel là, d'une personne qui me demandait, un homme qui s'appelle Michel, qui me demandait de l'aider à trouver des informations sur le meurtre de sa mère qui avait été commis par son père dans les années 70, en fait en 1977 à Sept-Îles, sur la Côte-Nord. Un soir d'hiver, au mois de janvier 1977, sa mère aurait été tuée de 17 coups de couteau.
Mais après ça, c'est là qu'il a donné ses coups de couteau de prolard. Puis il l'a emmené à l'hôpital, puis il a juste eu le temps de dire, finalement, il did it. Enfin, il l'a fait. Puis le docteur m'a dit qui a répondu, my husband, mon mari.
Puis, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Puis là, j'ai commencé à regarder un petit peu et j'ai vu qu'en effet, il y avait très peu d'informations facilement retraçables sur les archives. Et là, on continue à discuter et c'est le lendemain qu'on s'est parlé au téléphone.
Fait que j'avais envoyé un message en me disant on ne répondra probablement pas, tu sais, mais je vais l'envoyer quand même, tu sais, je vais prendre la chance. Puis finalement, ben j'avais été... quelqu'un m'avait envoyé un email, je me rappelle pas de son nom, par exemple. Et puis, tout de suite après, ben c'est toi, Annie, qui était rentrée en contact avec moi. Puis là, ça fait presque un an de ça, je pense. Ça fait quand même un bout. Là. Puis, ben ça, on avait commencé comme ça.
Et que j'ai compris que l'histoire était beaucoup plus nébuleuse et, en fait, spéciale que ce que j'avais l'habitude de faire pour les autres familles. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que ce soir-là, Marcel Lambert et Nora Lavallée auraient fait garder leurs enfants pour la première fois par une petite gardienne, une voisine de 14 ans, pour aller veiller dans un bar à Sept-Îles, des bars hôtels, là, c'était un peu comme ça à l'époque. Puis, ce qui s'est passé, c'est que, dans le fond, il aurait été dans un bar où il y avait un spectacle qui était illégal à l'époque, qui était un spectacle de sadomasochisme.
Et le lendemain, après notre spectacle, on montait dans notre lodge, et puis il y a deux types qui nous suivaient, et puis ils m'ont mis la main sur l'épaule, Monsieur Lamotte, j'ai dit oui. Il dit, on a des questions à vous poser, mais j'ai dit à propos de quoi? Là, il m'a dit à propos d'un meurtre.
Selon les faits, là, parce que là, l'histoire, bon, on a les faits objectifs, des papiers légaux qu'on peut retrouver. Ce qui se serait passé, c'est que dans le fond, il aurait passé la soirée là. Il serait revenu après le spectacle dans les alentours de 10h30. Nora aurait rappelé à la maison la gardienne pour lui dire qu'elle serait un petit peu en retard, qu'elle arriverait un petit peu plus tard que prévu. Et que finalement, ce qui s'est passé, c'est que Marcel n'est pas... Ils ne sont pas revenus à la maison, ils se sont plutôt en allés à l'hôpital de Sept-Îles, peut-être une demi-heure, 45 minutes plus tard, en panique, avec un Marcel pas de pantalon, ensanglanté.
Puis ma pauvre tante Annie, elle l'a dit une pauvre fois puis une autre. Elle disait toujours, elle dit, Marcel va tuer Nora. Elle dit, vous saurez un jour, vous direz un jour. Elle dit, moi, je le verrai peut-être pas. Mais elle dit, vous autres, elle dit, vous allez penser à ma tante. Elle dit, c'est sûr qu'il va la tuer. Puis, ça est arrivé.
Et Nora, qui est assise sur la banquette arrière, nue, la chemise en lambeaux, ou presque, avec 17 coups de couteau, principalement à l'abdomen. Marcel aurait demandé de vite dépêchez-vous aider ma femme. Elle a reçu beaucoup de coups de couteau. Elle aurait fait un téléphone au téléphone public de l'hôpital de Sept-Îles. Serait parti sans être arrêté parce qu'en fait, le personnel hospitalier qui était là n'est pas formé pour arrêter un Marcel Lambert à moitié nu qui court ensanglanté. Et il serait parti, serait retourné chez lui dans son habitation rue Marcellet à Sept-Îles. Et là, la gardienne l'a vu rentrer en trombe.
Je pense qu'elle avait 12 ou 13 ans. Là, pour elle, ben, il y a peut-être eu un accident. Elle ne savait pas trop ce qui s'était passé.
Elle a vu lancer des vêtements ensanglantés dans le petit sous-sol, là, comme une cave de service un peu qu'il y avait dans ce logement-là. La gardienne aurait demandé « Est-ce que je peux partir? » Marcel n'aurait pas voulu qu'elle parte parce que dans le fond, lui, il fallait qu'il retourne à l'hôpital, qu'il disait parce que sa femme n'allait pas bien.
Le téléphone a sonné peut-être 5 minutes après qu'elle soit rentrée et c'était monsieur qui demandait que ma soeur retourne garder parce qu'il fallait qu'elle aille à l'hôpital voir sa femme. Donc, étant donné que ma mère ne comprenait pas vraiment la situation, ne savait pas ce qui se passait, elle a décliné, elle a dit non, que ma soeur y retournerait pas.
Finalement, la jeune fille était apeurée, évidemment, est partie quand même, retournée chez elle. Marcel restait à la maison parce que les deux enfants dormaient. Et le frère de Marcel, Jean-Guy, se serait présenté à l'appartement pour savoir qu'est-ce qui se passe. Dans un premier temps, selon certains témoignages, il aurait demandé à la gardienne est-ce que Nora est à l'hôpital? Puis elle était au courant de rien parce que Marcel n'était pas encore revenu. Et dans un deuxième temps, pour venir voir Marcel. Et là, bon, là, ça relève des témoignages de l'enquête du coroner par la suite. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que Nora Lambert, née Lavallée, est décédée à 1h du matin environ à l'hôpital de Sept-Îles de ses nombreux coups de couteau.
Est-ce que ma mère puis Jean-Guy, comme il avait l'air très proche, hein, ces deux-là?
Donc, ce qui s'est passé, c'est que les enfants ont été immédiatement, les deux garçons, dans le fond, de 7 ans et de 2 ans, ont été à la DPJ, dans le fond, ont été placés, en fait, à différents endroits. Michel, qui avait 2 ans, qui n'était pas conscient de ce qui se passait, évidemment, a été placé dans une famille d'accueil tout près de où il résidait, à Sept-Îles. Et Lucien, son frère, lui, a été placé dans une famille dans le bout de Thetford Mines. Ils ont été orphelins et séparés. Marcel a été incarcéré en attendant l'enquête du coroner, l'enquête préliminaire et, bon, toutes ces choses nébuleuses-là qu'on n'a pas. Le reste, les suites judiciaires, dans le fond, de ça. Il y a eu une enquête du coroner avec des témoignages de toutes les personnes, en gros, qui étaient présentes, soit au bar, la gardienne, etc. Suite à ça, j'ai bien d'autres. J'ai les témoignages de l'enquête du coroner, mais suite à ça, je crois qu'il y aurait eu une enquête préliminaire dont le verdict aurait été d'une culpabilité de meurtre involontaire pour laquelle Marcel aurait plaidé coupable, donc il n'y aurait pas eu de procès, parce que, dans le fond, il a plaidé coupable à ça. Suite à ça, là, dans les données que j'avais trouvées, dans les articles de journaux, il y aurait eu une enquête pro forma pour avoir un prononcé de sa sentence au mois de février seulement 1978, qui est plus qu'un an plus tard, dans le fond, que le meurtre, parce que ça a pris beaucoup de temps avant qu'il trouve l'effectif là, sur la Cour Nord pour ces procès-là, parce que c'était pas le seul procès. Finalement, suite à ça, on n'a rien. J'ai été au palais de justice pour aller chercher le plumitif de beaucoup de personnes dans ça, mais bien évidemment, principalement celui-là de Marcel Lambert, qui était introuvable. T'sais, Marcel Lambert, c'est un nom commun, mais je sais comment aller chercher ça d'une façon en voyant les numéros aussi de palais de justice, dans quelle localité, tout ça, en regardant dans la série de chiffres de dossiers aussi, les années. Puis j'ai passé une heure pour ne jamais le trouver.
Qu'est-ce qui fait que Michel a communiqué avec toi cette année? Qu'est-ce qu'il voulait, en fait? Il voulait savoir quoi par rapport à ce meurtre-là?
En fait, c'est parce que Michel, dans le fond, il a été dans l'absence de détails pendant, en fait, pas juste de détails, mais de tout l'ensemble de ce meurtre-là, bien su jusqu'à l'âge de 22 ans.
Donc, il savait pas que sa mère avait été assassinée.
Il s'était fait dire toute son enfance que sa mère était décédée dans un accident de voiture.
OK.
Puis, ce qui s'est passé, c'est que, dans le fond, son père, après ça, il a fait tellement une très petite détention, il était très jeune, que, dans le fond, il a jamais su que son père, il a jamais été vraiment conscient que son père avait été en prison. Aussitôt que son père est sorti de prison, soit en 1981, tout de suite, la protection de la jeunesse aurait remis les enfants à Marcel Lambert.
OK, fait qu'ils sont retournés à la maison.
Ils sont retournés à la maison.
Ça faisait à peine 3 ans que le père était détenu. Même.
Disons 3 ans et demi, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une détention préventive qui comptait peut-être pour plus. Fait qu'en termes d'années réellement, ça faisait 3 ans et demi que le meurtre avait eu lieu.
Donc, il a fait un meurtre, puis il a fait 3 ans et demi de prison. Il est retourné à la maison, il a récupéré ses enfants.
Il a récupéré ses enfants. Il a récupéré ses enfants à Charlebourg, à Québec. Parce que cette île, c'était pas le lieu de naissance d'aucun des deux parents, parce que, en fait, c'était pour le travail avec les mines, puis tout ça, l'Iron Ore, à cette île, puis à Schefferville. Donc, ils sont allés à Charlebourg, ils ont déménagé là. Puis, en 1988, soit 7 ans après la libération de Marcel, Marcel est décédé, dans le fond, subitement, devant son fils, devant Michel, qui était à la maison. Finalement, bon, il est décédé très jeune, à 43 ans, d'un arrêt du cœur. Puis suite à ça, ben c'est sûr qu'il a été relocalisé encore dans des familles d'accueil, okay. Les deux garçons. Fait que c'est vraiment, ils ont galéré longtemps là-dessus. Puis finalement, à un moment donné, vers l'âge de 16 ans, ce que Michel m'a raconté, c'est qu'il n'en pouvait plus d'être transféré de famille d'accueil en famille d'accueil. Puis il était aussi un peu rebelle face à toute cette enfance-là aussi, qui n'avait pas été facile. Donc là, il a quitté de son propre chef à 16 ans la famille d'accueil. Ça s'est pas super bien passé pour lui les années d'ensuite parce que évidemment ben c'était pas facile là. Tu quittes à 16 ans, partir ta vie à 16 ans, on le sait que c'est pas évident. Donc 22 ans, il est allé revivre chez sa grand-mère paternelle, c'est-à-dire la mère de Marcel, pour se reprendre en main un peu parce qu'il y avait eu des problèmes. Puis c'est en fouillant un petit peu, bon, comme on fait souvent, des fois on va chez nos parents, on regarde les photos, les albums de famille, puis tout ça. Puis en fouillant les souvenirs de famille, il est tombé sur un gros paquet de feuilles là. Puis quand il a trouvé ça, ben lui, il m'a carrément dit qu'il y a une vie avant puis une vie après.
Tous les documents.
C'était le procès. Okay. En fait, le procès, ce qu'on appelle le procès qui n'existe pas, dans le fond, c'était probablement l'enquête préliminaire qu'il y avait.
OK.
Ou le coroner, parce que c'est ça, c'est comme des mini-procès. En fait, c'est une autre, c'est comme des prémices au procès qu'il n'y a pas eu parce qu'il a plaidé coupable. Puis là, il a vu ça. Il a vu. Il y avait aussi à l'intérieur de ces feuilles-là, dans le fond, le rapport du psychiatre, parce que évidemment quand on plaide aussi la santé mentale, toutes sortes de... Ils ont plaidé toutes sortes de choses en ça, je crois. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'il a vu aussi tous les troubles que Marcel pouvait avoir là pour plaider. Donc, okay. Il a vu ça, puis il a vu aussi le verdict à la fin. Lui, il a l'impression d'avoir vu une négligence criminelle, mais après ça, il se passe plus grand-chose. Ce qui s'est passé, c'est que la grand-mère a su que Michel avait vu les feuilles. Et il lui a demandé, sous peine, dans le fond, de le renier, de brûler les feuilles devant elle.
Michel m'a dit l'autre jour, c'est quand il avait lu la lettre, là, ou quelque chose, il a trouvé quelque chose, mais sa grand-mère a dit, si il était plus jeune, s'il en parle, qu'elle va le mettre dehors, fait qu'il a pas, il a regardé ça comme secret. Il doit avoir souffert énormément, hein?
Donc, le procès, il l'a lu, il a capoté, comme on dit, il a été obligé de les brûler. Et finalement, ben, c'est sûr que ce que ça fait dans ce temps-là, quand t'es sous le choc, tu te rappelles plus.
Mm-hmm.
Donc, il se rappelle pas de tout ce qu'il a lu. Il se rappelle par flash ou par petite bribe, ça avait ruiné sa vie là, complètement. Donc, ce qu'il voulait, quand il m'a demandé, c'était en finir avec ce passé nébuleux-là, puis trouver les réponses. Parce que des fois, la résolution, c'est pas nécessairement de trouver un corps ou de trouver un meurtrier, c'est de trouver des réponses. Quand t'es pas, t'es dans le néant, tu sais pas d'où tu viens nécessairement. Oui. Donc, c'est ça qui s'est passé.
Il voulait des réponses. Puis, qu'est-ce qui a fait que t'as décidé de poursuivre cette enquête-là?
N'importe quelle famille qui me le demande, je le fais. Des fois, je peux tomber comme dans un cul-de-sac un peu. Par exemple, le procès n'est pas là, ou il y a toujours des informations à trouver, mais des fois, bon, ben, ça aboutit pas plus que ce que la famille a réussi à trouver. Mm-hmm. Ce qui était un challenge pour moi, c'est qu'il n'y avait rien quasiment. Il y avait juste deux articles de la presse ou Le Soleil. C'était dans le fond le côté nébuleux, parce que dans le fond, en plus, c'est de voir c'est quoi qui s'est passé pour que la protection de la jeunesse remette deux jeunes enfants à un homme qui a tué sa femme de 17 mm-hmm. coups de couteau, en fait, qui est la mère de ces enfants-là en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, comme je trouve pas son plumitif, est-ce qu'il y a eu un arrêt de procédure? Est-ce qu'il y a eu finalement un revirement des choses? Je me suis même demandé, est-ce que c'est parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas lui qui s'est avoué meurtrier mm-hmm. parce que dans le fond, il était sous une autre menace qui était pire que d'aller mm-hmm. en dedans? Ça se peut, ça. Donc, j'ai essayé de voir qu'est-ce que ça pouvait être. Est-ce que c'est lui vraiment? Est-ce qu'il était le seul dans ça? Est-ce que c'est tout ce côté-là
aussi?
Donc, tu
te posais des questions. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi un plumitif? Peut-être des gens, des abonnés qui nous écoutent puis ils savent pas ce que c'est.
Un plumitif criminel et pénal, dans le fond. Il y a aussi le plumitif civil. Mais le plumitif criminel et pénal, dans le fond, c'est un peu comme si on pourrait dire le dossier criminel. Le dossier criminel, on n'a pas ça. C'est la police seulement qui a ça. Le plumitif, c'est comme un index, comme une table des matières, dans le fond, d'un passé criminel de quelqu'un. Ce que je vais avoir dans ça, c'est le nom de la personne, sa date de naissance, avec évidemment une marge d'erreur qu'il peut y avoir dans l'entrée des données, avec une date d'infraction puis une date d'ouverture de dossier. Et ensuite, quand il y a eu procédure juridique, bien là, j'ai les dates de, mettons, ça va être tout simplement écrit en cas de pro forma ou juste des petits mots-clés pour m'expliquer
toutes les étapes,
les procédures. Okay. Rarement, tu as un verdict à la fin. Rarement, ça va être écrit 25 ans d'emprisonnement ou quelque chose comme ça, mais tu as un verdict de culpabilité ou non, avec le nom
traces.
Des avocats aussi.
Dans le fond,
aussi.
On a des traces de toutes les démarches qui ont été faites.
Des démarches, mais aussi du passé de la personne, parce que ça me donne l'adresse.
OK.
Avec les archives, ça me donne les numéros de téléphone après, ça me donne toutes sortes de choses.
Puis là, Marcel, il n'y avait pas de ça.
En fait, il n'y avait ni ça, ni le procès, parce que, bon, j'ai su après là, que de toute façon, je pense qu'il n'y a pas eu de procès en tant que tel. Ça a été. Il a plaidé coupable à l'enquête préliminaire, probablement. C'est pas non plus un domaine que je maîtrise à 100%. Je n'ai pas étudié en droit, donc j'apprends à la mesure aussi. Puis je me suis dit, s'il n'y a plus de plumitif, qui s'est effacé comme s'il avait obtenu un pardon en quelque sorte ou une clémence quelconque, ça veut dire que peut-être qu'il est allé en cour d'appel. Puis à une cour d'appel, mais ça, c'est toujours conservé apparemment à Québec.
Okay.
Donc, j'ai écrit aux archives de la Ville de Québec, qui est apparemment, je me suis fait dire par plusieurs personnes, la sommité dans les archives, pour lui demander s'il y avait déjà eu une cour d'appel à ce nom-là, avec sa date de naissance, tout ça. J'avais les informations requises pour le demander. Puis elle m'a répondu, certainement que cette personne-là, il y a eu arrêt de procédure ou quelque chose qui s'est passé parce qu'il n'y a même pas de plumitif. Donc, elle-même ne le trouvait pas. Il y avait
pas
de plumitif.
Donc, c'était vraiment encore plus nébuleux. C'était pas normal que tu puisses pas trouver ces informations-là, puis c'est ce qui t'a donné envie de poursuivre, puis là, d'aller creuser, parce que avec ton intérêt pour les enquêtes, tout ça, tu voyais qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait.
Il y avait quelque chose de bizarre. Je cherche pas les affaires injustes nécessairement, mm-hmm. ou je cherche pas ça, mais veux, veux pas, j'ai pas ma réponse. Mais c'est plus ça, c'est que c'est pas que je cherche à voir où le système a eu des failles, puis que je cherche à mettre une faute sur quelqu'un, mm-hmm. mais je cherche juste une réponse.
Ça fait pas de sens. Ça faisait pas de sens.
Ça m'énerve quand il y a pas de réponse, donc je sais que cette réponse-là, je suis supposée de l'avoir.
Mais en même temps, c'est une enquête qui est résolue, donc qu'est-ce qui a fait que tu voulais vraiment poursuivre? Il y avait quelque chose qui t'attirait là-dedans?
Oui, parce que de toute façon, dans les enquêtes déjà résolues, moi, j'en fais aussi parce que c'est résolu aux yeux de la justice, quelqu'un d'acquitté ou d'accusé, mais ça ne veut pas dire que la chose est résolue en tant que telle. Puis pour les familles, la résolution, c'est aussi dans l'information qu'ils n'ont pas, justement, dans ces procédures-là, des fois, que je vais essayer de comprendre avec eux. Dans le fond, Michel, quand j'y ai parlé, ça faisait du sens. C'est quelqu'un avec qui c'était le fun de vouloir creuser ça, qui a lui-même quand même, c'est quelqu'un de très résilient, puis il a lui-même un bon jugement sur ce qui s'est passé, puis capable d'échanger sur les théories. C'est intéressant de continuer là-dedans.
Donc, c'est à travers toutes ces recherches-là que là, tu as vraiment découvert des choses spéciales, puis des trucs qui n'étaient pas dans les dossiers-là.
Puis qu'on est obligé d'étudier tellement de domaines différents que ça nous en a fait apprendre vraiment beaucoup, puis c'était assez surprenant par bout.
Thank you.
membre de la famille H2O Web Media.